Tu sais que je commence à en avoir assez de tes humeurs. Je n'arrête pas de faire le maximum pour te rendre cet appartement agréable à vivre.
Ah, je sais, excuse-moi, je suis désolée.
Ça va.
Eh ben, vous voyez que c'est un super appartement.
Oh, la ferme, toi, c'est un taudis, votre truc.
Le bordel qui habitait là ressemblait totalement à celui qui m'habitait depuis toujours. C'est comme si leurs engueulades, c'était celles qui avaient lieu dans ma tête en permanence depuis que je suis tout petit.
Grosso modo, ça veut dire que ça repousse ta thèse d'un an et demi et qu'on va t'avoir encore à la maison pendant tout ce temps.
À moins que vous me supportiez plus.
Oh, mais pas du tout, qu'est-ce que tu vas chercher? Alors on peut pas discuter, c'est tout de suite les grands mots.
Je plaisante, maman.
Non, c'est pas drôle.
En ce mois d'avril, la trilogie de Cédric Clapiche lancée par l'Auberge Espagnole en 2002 connaît un prolongement. Sous forme de série, ça s'appelle Salade grecque. Et comme dans le premier film, les héros vivent l'expérience de la colocation. La colocation, beaucoup de jeunes l'expérimentent avec des amis ou des inconnus. 20% des 18-24 ans si on écoute les statistiques. Au-delà d'une version idéalisée et romantisée au cinéma et à la télévision, il s'agit d'un choix, parfois d'un non-choix, motivé par divers facteurs, parfois idéologiques plus qu'économiques. Même si la crise du logement mondial a forcément impacté nos façons d'habiter. Si la colocation marque le départ de la cellule familiale, les parcours de vie amènent parfois à y revenir. C'est la recohabitation, là aussi explorée au cinéma. Avec ce film sorti en 2001, dont le titre est passé dans le langage courant, Tanguy. En France, 57% des 18-24 vivent chez leurs parents. Une partie d'entre eux y serait même revenus en fait. Un phénomène, la recohabitation, qui a toujours existé, mais plus fréquent et accepté socialement depuis quelques années. Comment sont vécues les expériences de recohabitation et de colocation? Qu'est-ce qui se joue entre le jeune et ses colocataires, ou ses parents entre les murs du chez-soi? Comment se construisent ces deux formes de cohabitation qui ne touchent pas que les étudiants? Élément de réponse dans un instant, bienvenue dans Chercheurs en ville. Aujourd'hui dans Chercheurs en ville, émission consacrée à la recherche universitaire diffusée sur Canal B, on reçoit Emmanuel Monneil. Bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes enseignante chercheuse, maîtresse de conférences en sociologie à l'IUT de Rennes dans le département carrière sociale et votre sujet de recherche actuel tourne autour du jeune et de son départ ou de son retour parfois dans le nid familial. Pendant une heure, vous répondrez aux questions de Colette David. Bonjour Colette.
Bonjour.
Colette qui est journaliste à Ouest France à la retraite et juste à côté on a Christian Lebar pour la Maison des sciences de l'homme en Bretagne, également professeur de sciences politiques. Bonjour Christian.
Bonjour.
Colette, je vous laisse la parole.
57% des filles et des garçons de 18 à 24 ans vivent chez leurs parents. Mais vous, Emmanuel Monneil et vos collègues, vous avez choisi de vous intéresser à un mode de vie et d'habitat plus minoritaire, la colocation, qui concerne environ 20% de cette tranche d'âge. Comment avez-vous enquêté auprès des jeunes, de leurs parents, de leurs voisins d'appartement ?
Oui, donc c'est une recherche qui est collective puisque j'ai travaillé avec Patricia Loncle qui est professeure de sociologie aussi à Rennes. Et donc notre recherche est une recherche qualitative, ça veut dire qu'on est allé à la rencontre des personnes qui sont en colocation, de ces jeunes qui ont choisi ce mode d'habitat. Et on est allé les interviewer, alors souvent chez eux, parce que c'est intéressant d'aller voir aussi, parce que la recherche en sociologie, c'est pas juste d'entendre, mais c'est aussi peut-être de voir, d'observer, et puis de constater aussi des choses qui pouvaient se passer à l'intérieur de ces colocations, parce que c'est un peu l'enjeu de notre sujet, c'est de voir voilà, la vie à l'intérieur de ces colocations. Et voilà, donc on a rencontré par... Enfin, souvent, on trouve une personne qui est d'accord pour nous répondre. Et puis, petit à petit, chemin faisant, on en trouve d'autres. Et donc, voilà, on avait un panel d'à peu près une trentaine de jeunes, donc jusqu'à 30 ans à peu près, qui ont choisi ce mode d'habitat.
C'était des jeunes rennais ?
Des jeunes rennais, oui. Des jeunes rennais qui habitent dans la métropole, soit vraiment à l'intérieur voilà, de Rennes, hein, Rennes intramuros, on pourrait dire, ou alors qui ont choisi aussi là, des colocations plus différentes. C'est pas celle qu'on a, l'appartement un peu, mais c'est la maison aussi. Il y a des colocations de maisons un peu excentrées de Rennes pour aussi vivre la ruralité, le jardin, et donc des expériences de colocation un peu différentes de ce point de vue-là.
On va lister les multiples raisons d'opter pour la colocation. Quelle est la première, peut-être la plus évidente ?
Alors la plus évidente, peut-être qu'on pourrait, on pourrait se dire, la plus évidente, c'est pour que ce soit moins cher, c'est-à-dire pour et à la fois trouver un bon compromis entre habiter dans quelque chose assez grand, assez confortable, mais avec un prêt de loyer à peu près correct. Donc on s'était dit au départ, bah, c'est des raisons économiques qui vont guider ce choix de la colocation. Certes, ça existe quand on pose la question, mais ce qui nous a beaucoup étonné aussi, c'est que elle n'est pas forcément, enfin, elle est très présente, mais pas forcément la première, parce que ce qu'on va entendre, et on a entendu ça dans tous les entretiens, c'est parce que je ne voulais pas vivre seule. Et donc, choisir la colocation, c'est aussi expérimenter un mode de vie communautaire, un peu à plusieurs, pour ne pas vivre seule et pour vivre avec. Et c'est tout l'enjeu aussi de notre travail, c'est comprendre ces nouvelles manières d'habiter, de vivre avec, qui peut aussi, voilà, on en voit plein d'exemples avec les habitats partagés, les nouvelles manières aussi de penser son rapport aux autres, en fait. Aussi.
Donnez-nous un petit peu des exemples et des témoignages un peu par thème. Donc, on a dit éviter la solitude,
oui.
Transition douce entre la vie familiale et une vie plus autonome. Et puis aussi, évidemment, ce logement moins cher, moins coûteux, plus grand.
Mm-mm.
J'aimerais bien que vous développiez
ouais.
ça.
Oui. Alors, ne pas vivre seul, une transition douce, ce qui est intéressant là, c'est de se poser la question, parce que justement, ce qu'on se demandait, on prononce la colocation comme un exemple, en fait, des manières de devenir adulte, de prendre son autonomie. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs cas de figure, peut-être. Il y a ceux qui vont choisir la colocation un peu, effectivement, comme un mode un peu de transition entre sa vie chez ses parents et puis des projections vers des vies assez normative, couple, enfant, etc. Et j'ai aussi eu des exemples en tête de jeunes femmes qui ne remettent pas du tout en cause hein, la trajectoire vers l'âge adulte, faire une vie, une famille, etc. Et qui voilà, vont choisir de vivre ensemble un moment pour partager autre chose et puis petit à petit se préparer à leur vie de couple qu'elles envisagent. Et puis, il y a d'autres gens, d'autres personnes, d'autres jeunes qui, eux, choisissent, alors là, pour expérimenter, et là, d'une certaine manière, pour questionner, finalement, ces trajectoires un peu attendues, normatives, de vouloir être en couple, etc., et qui choisissent la colocation. Alors, peut-être plus dans un premier temps, parce qu'après, il faut voir comment les trajectoires évoluent, mais avec l'idée qu'ils n'ont pas forcément envie de rentrer dans un moule attendu, de se placer un peu comme... On attend peut-être, les adultes attendent que les jeunes se placent dans une le jeu voilà, de la société telle qu'on l'a construite, et puis vont finalement expérimenter d'autres manières, plus collectives, plus politiques, pour questionner finalement ces passages à la vie adulte. Et puis, effectivement, de l'autre côté aussi, toutes ces raisons économiques qui coexistent. Hein. Je ne dis pas que ça, c'est l'un ou l'autre, parce que ça, forcément, ça coexiste, ces raisons économiques. Et bah, vivre dans plus grand, et souvent aussi, c'est, comme on l'explique hein, dans les travaux qu'on a pu mener avec Patricia, l'oncle, c'est une manière de résister aussi aux trajectoires peut-être descendantes, on pourrait dire, de déclassement. Et finalement, quelque part, choisir la colocation, c'est lutter contre une forme de déclassement résidentiel pour permettre de ne pas vivre excentré, dans petit, dans assez mal chauffé. Ou mal organisé, on pourrait dire.
Christian Lebar.
Oui, alors ce qui est très très passionnant dans les travaux que vous avez menés, c'est qu'on est très loin d'un déterminisme économique étroit, voilà, d'une contrainte qui ferait que les étudiants n'ayant plus les moyens d'avoir des studios sont condamnés à, même si ça, en dernière instance, ça joue évidemment, mais ce qui est formidable, c'est ce qui est passionnant et assez formidable, c'est la capacité qu'ont ces jeunes à sublimer ça en allant se situer sur un terrain qui est presque à bien des égards, celui de l'utopie, d'une sorte de socialité un peu utopique. Mais du coup, moi, ça m'amène à... Ils inventent des choses, hein, manifestement, mais ça m'amène à poser une question autour des règles du jeu, quand même. C'est-à-dire, cette utopie, elle se heurte forcément, comme toutes les utopies, à l'épreuve de la réalité. Donc, voilà, est-ce qu'on pourrait aborder cette question de la négociation des règles, la dimension presque contractuelle? Et puis aussi, pourquoi pas, la question du choix des gens avec qui on fait des colocations, parce qu'il y a... On sait qu'il y a un marché, il y a des offres, il y a une place à prendre parce qu'on était quatre, il y en a un qui s'en va, etc. Donc voilà. Mais il y a aussi des lycéens qui disent on va prendre l'année prochaine. Enfin voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire de ça?
Alors première chose par rapport à ce que la question sur aussi les innovations, en fait c'est ça qui nous intéressait aussi, c'est de voir aussi, alors effectivement on peut pas nier toutes les difficultés d'entrer dans la vie adulte, des problèmes de déclassement, des problèmes de placement finalement dans la société, mais d'essayer de regarder aussi de manière plus positive en fait ces choix de vie comme la colocation, comme des manières aussi d'inventer, de négocier, d'innover d'autres manières qui peuvent être, voilà, comme je disais tout à l'heure, un questionnement sur le fonctionnement en gros de la société aujourd'hui. Alors par rapport aux règles, effectivement, là on rentre dans la colocation, comment ça se passe précisément.
Dans votre texte, vous dites que les colocataires ne sont ni tout à fait des amis, pas tout à fait de la famille, mais infiniment plus que des simples voisins.
Oui, c'est ça. Et en fait, c'est cette question-là qu'on traite. Et là, actuellement, je vais participer à une nouvelle enquête sur les questions de la colocation. Et donc, pour approfondir ces questions-là, sur qu'est-ce qu'on invente comme nouveaux liens, finalement, par la colocation. Ce ne sont pas des amis. Parce que souvent, on pose la question, c'est quoi un colocataire? On leur posait cette question-là. Et donc, ils disaient, c'est mon coloc. En fait, il y a le lien de colocation. C'est comme un lien familial ou un lien amical, ça se situe un peu entre les deux. Et ce qui était vraiment très intéressant, c'est de se rendre compte qu'on partage énormément de choses, une intimité dans la colocation avec des règles, alors qui vont être sujettes à négociation effectivement, et qui reflètent finalement les manières de penser aussi individuellement l'organisation. Enfin, après on peut refaire aussi des liens avec des travaux de Jean-Claude Kaufmann par exemple sur la mise en couple, et on voit bien quand même il y a une négociation avec des socialisations différentes des individus qui doivent à un moment se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est que le propre, qu'est-ce que c'est que le rangé, à quel moment on fait la vaisselle, qui fait... Donc voilà, toutes ces négociations.
Qu'est-ce qu'on met dans son étage, dans le frigo?
Oui.
Ça dépend. En fait, c'est là où, et pour revenir à la question comment on rentre aussi dans la colocation, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, par exemple, ce serait d'aller voir toutes les petites annonces sur Le Bon Coin. Et alors, il y a des différentes manières de rentrer en colocation. Effectivement, il y a un appartement où il y a une place à prendre et où les colocataires, ils ont une manière de penser la vie collective d'une certaine façon, on cherche quelqu'un qui aime partager des repas avec nous, où on fait les courses ensemble. Et donc, dans les petites annonces de colocation, on voit si tu aimes la vie en collectivité, si tu es décroissant, etc., tu as des valeurs politiques qui nous ressemblent, bienvenue dans notre colocation. Et puis, il y a d'autres modes plus gérés plus par des particuliers, on va dire, ou avec des propriétaires qui achètent des appartements. Et là, c'est plus du rendement locatif pour ces propriétaires qui sous-louent des chambres, quelque part, où la vie collective, elle n'est pas forcément organisée par les colocataires, en tout cas pas au départ, et qui vont ensuite, des gens un peu inconnus qui vont vivre un peu les uns à côté des autres. Et dans les entretiens qu'on a faits, il y avait ces colocations où, il y a relativement peu de vie collective. Chacun est un peu chez soi, où il y a des étages dans le frigo, où on ne va pas manger dans les réserves de l'autre, où on se fait sa cuisine et puis on va manger peut-être dans sa chambre, ou avec des colocations où c'est vraiment, vraiment très, très collectif. Et pas forcément des gens qui se connaissaient avant. Mais ils se rejoignent sur une manière de vivre, en fait.
Est-ce qu'il y a, dans ce guide explicite ou implicite du savoir-vivre ensemble, des points qui reviennent, des points d'achoppement?
Oui. Ah bah, de toute façon, c'est tout ce qui concerne l'organisation du lieu, c'est-à-dire le ménage, les
espaces partagés. Est-ce qu'il y a une pièce dans qui est collective?
Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, là aussi, on arrive avec la question de la place aussi. Quelquefois, l'espace collectif dédié, comme le salon, peut être devenu une chambre. Mmh. Donc, ça va être la cuisine, par exemple, qui peut devenir un espace collectif. Après, il y a les espaces aussi semi privé collectif, c'est-à-dire la salle de bain. Grand enjeu, la salle de bain. Déjà, il faut la laver.
Les horaires.
Les horaires de salle de bain. Et donc, cuisine, salle de bain, ce sont des lieux un petit peu de négociation où on voit apparaître les formes de vivre ensemble aussi très différentes. Et puis, la décoration autour de la question, comment on décore le logement. Donc, on est, en faisant les entretiens, on est allé dans des colocations et c'est vrai que en termes de décoration, il y a des décorations très très différentes, des choses assez peu appropriées, puis d'autres très très appropriées.
Et est-ce que la mixité, garçon-fille, homme-femme, est la norme ou pas? Et quelle place pour la conjugalité, pour la sexualité dans ces espaces partagés qui sont...
Alors, on a posé cette question-là, alors très honnêtement, faudrait encore approfondir, parce que là, on aborde, alors peut-être qu'on avait mal posé les questions, mais voilà, on aborde sur quelque chose d'assez intime, sur les questions conjugales, de sexualité, où il faudrait peut-être approfondir. Mais sur la question de la mixité, c'est vrai qu'on posait cette question, mais ils nous regardaient alors, un peu interloqués en disant que c'était pas un sujet, quelque part, que soit garçon, fille, mixte ou pas mixte, ça leur posait pas de problème, visiblement.
En même temps, il y a énormément d'offres de colocation qui indiquent clairement qu'on ne prendra pas de garçon, peut-être l'inverse aussi.
Oui, mais en tout cas, c'est vrai que là, il faut approfondir tout à fait. Mais je me souviens d'une réflexion où justement, c'était plus le rapport au corps. Et quand on est dans une colocation mixte, est-ce qu'on peut se comporter de la même manière en termes corporels, sortir à moitié nu de la salle de bain, etc. Et je me souviens d'un homme qui disait, lui était dans sa colocation avec ses colocatrices, je ne sais pas comment on dit.
Colocataires
femmes. Et qui était sorti torse nu de sa chambre. Et tout de suite, rappel à l'ordre des femmes qui avaient dit « Ah non, ça c'est pas possible, tu remets un t-shirt. » Et donc voilà, le rappel... Oui.
Et il y a aussi cette autre enquêtée, eux qui ramènent des copains de temps en temps, mais qui gèrent le fait que quand ils ramènent un copain, les autres ne sont pas là. Enfin,
oui, c'est ça. Oui. Parce qu'effectivement, toute la question à la vie intime, à la vie sexuelle, on habite dans un appartement, les murs peuvent être un petit peu pas très épais. Oui. Et donc voilà, c'est comment on gère les rapports conjugaux dans un espace collectif, effectivement. Oui. Et du coup, ça me fait aussi penser à la question de la conjugalité, comment on vit sa conjugalité, parce que par rapport à tout à l'heure, quand je disais que c'était des manières aussi peut-être d'inventer des nouvelles manières de se projeter dans la vie adulte, on voit aussi apparaître d'autres formes de conjugalité comme les vies conjugales non cohabitantes et vivre ensemble mais séparément. Ouais. Et en fait, on a aussi plusieurs cas dans notre corpus où des personnes étaient en couple et où le conjoint était dans une autre colocation. Et je me souviens d'une femme en particulier qui est très, c'était impensable. Elle avait vécu un moment en colocation avec son conjoint, mais ça ne s'était pas bien passé. Ils étaient chacun chez eux. Ils pensaient avoir un enfant. Et donc, voilà, la question de l'enfant allait peut-être battre les cartes. Mais dix ans plus tôt, peut-être pendant un an ou deux, il va falloir quand même peut-être qu'on vive ensemble quand l'enfant va être petit. Mais après, ils se voyaient très bien habiter chacun chez soi.
C'est frappant à Paris en particulier, c'est-à-dire ni l'entrée dans la vie active avec un vrai salaire, ni l'entrée dans la conjugalité ne met fin aux colocations. Enfin, moi, je connais, comme tout le monde, des gens qui, à Paris, des jeunes enseignants qui sont en colocation, des salariés, des fonctionnaires, et je connais des gens qui sont en couple et qui restent en colocation parce qu'ils s'y trouvent très bien.
Oui, tout à fait, oui. Oui, je pense que c'est une manière nouvelle d'expérimenter les relations conjugales. Je me souviens de travaux qu'avait réalisé Jean-Claude Kaufmann justement un peu sur ces questions-là, qui montraient comment le quotidien aussi pouvait être une sorte d'assassin de la vie conjugale et que ça permettait peut-être de rester dans quelque chose d'assez... d'avoir une vie à soi et puis d'avoir des temps conjugaux souhaités. Et
c'est l'enfant en fait qui met fin à la...
Pas forcément, il peut encore avoir... Mais là, je connais moins ces travaux-là, mais... Là, sur des travaux qu'on a menés avec un collègue sur la question du départ aussi, une fois, ce qu'on appelle le nid vide, une fois que les enfants sont tous partis de la famille, sur les femmes qui vont, une fois que tous les enfants sont partis, elles étaient divorcées, est-ce qu'elles se remettent en couple ? Et il y a pas mal de cas où ce sont des femmes séparées qui restent quand même dans des conjugalités un peu séparées, malgré le fait que leurs enfants soient partis. On aurait pu penser que comme ils sont partis, le conjoint pouvait de nouveau s'installer, mais pas forcément, avec cette idée de garder un peu sa liberté, quoi.
Des jeunes que vous avez interrogés, que vous avez rencontrés, disent, par exemple, comme phrase, la colocation, ça nous fait grandir, c'est un plaisir. À l'inverse, est-ce que vous avez eu des témoignages de gens qui ont été complètement découragés ou vraiment des expériences désastreuses ? Et pourquoi de coloc ?
En fait, c'est peut-être une limite de notre travail et il faudrait peut-être explorer parce qu'effectivement, on n'a pas eu des déceptions peut-être de certaines colocations, mais qui ne va pas entamer le fait de ne pas vouloir continuer de colocation. J'ai le souvenir, par exemple, d'une jeune femme qui était déçue d'une des colocations qu'elle avait eues parce que, justement, c'était trop impersonnel. Elle avait deux colocataires qui étaient dans leur chambre, qui venaient se servir dans la cuisine, mais où il n'y avait pas de vie collective. Alors qu'elle, elle réclamait plutôt quelque chose d'assez collectif. Après, ça peut être des moments un peu de tension parce que, pour revenir à la manière de vivre ensemble, on n'a pas les mêmes rythmes, par exemple. Et c'est très flagrant pour des colocataires étudiants qui sont plutôt dans une vie un peu juvénile, la fête du jeudi soir, etc., jusqu'au lundi matin, on pourrait dire. Et puis, des personnes qui sont actifs et qui ont un autre rythme. Et donc là aussi, des colocations qui vont peut-être être un peu compliquées lorsqu'on n'a pas le même rythme, qu'on se couche au moment où l'autre se lève, etc. Et donc ça peut être... Et donc peut-être là, effectivement, dans la question du choix des colocataires, il y a ces questions de trouver quand même des moments où ce sont des personnes qui peuvent cohabiter parce qu'elles se ressemblent plus ou moins sur le rythme. Ça ne va pas créer trop de tensions.
Et comment, dans un espace donc très peuplé parfois, comment on investit et comment on délimite un espace privé ?
La porte de sa chambre, on la ferme, je pense. Et ça, c'est... Là encore, il y a des jeux, alors c'est vraiment de la micro-sociologie sur l'usage de la porte. Est-ce que on ferme sa porte à clé dans une colocation ? Est-ce que on la laisse ouverte ? Et on posait cette question, est-ce que ton colocataire, si t'es pas là, il invite un copain, est-ce qu'il a le droit d'aller utiliser ta chambre pour le faire dormir. Alors, ça dépend, là encore, de la manière peut-être dont on investit son espace personnel. Et donc, si on veut être tranquille, on ferme sa porte. Il y a des règlements assez tacites, je pense, entre les colocataires, qui respectent le territoire privé de l'autre. Mais dans d'autres aussi... Je me souviens d'exemples où des colocataires femmes qui étaient très très proches et qui allaient se prendre des vêtements dans les armoires, etc.
les échanges de...
Oui, c'est ça.
C'est une recherche qualitative, mais je me pose une question sur un indicateur quantitatif qui serait la durée de vie des colocations. Est-ce que vous pouvez en dire quelque chose ?
J'ai peu de choses là-dessus. Plutôt des hypothèses, on pourrait dire. Mais là encore, c'est la différence entre est-ce que ce sont des colocataires étudiants ou jeunes actifs. Parce que dans notre corpus, qui a été aussi un étonnement pour nous, c'est qu'on a moins en fait d'étudiants que de jeunes actifs. On pourrait penser, c'est souvent des étudiants qui sont en colocation, mais non, ça perdure aussi après l'entrée dans la vie professionnelle. Et donc, on pourrait penser que les jeunes étudiants, c'est souvent la durée d'une année universitaire. Souvent, ils vont rendre, entre guillemets, leur logement pendant les vacances pour en reprendre une autre. Dans notre corpus, oui, on a des colocataires, des colocations qui durent peu de temps et d'autres qui durent plus longtemps. Mais avec la nouvelle recherche qu'on fait avec mon collègue de Paris, Christophe Giraud, on va pouvoir exploiter des données quantitatives produites par une enquête qui s'appelait Enquête sur les ressources des jeunes, ENRJ. Et donc, avec des traitements secondaires, je pense qu'on va pouvoir avoir des chiffres un peu plus récents. Parce que finalement, les statistiques sont assez peu nombreuses.
Sachant qu'une des règles qui contraint quand même, c'est le droit immobilier, parce que souvent le bail est signé par l'ensemble des colocataires, et s'il y en a un qui s'en va, ça veut dire que le loyer est à la charge de tous les autres, donc c'est une catastrophe. En fait.
Oui, oui. Et en fait, ça peut être une catastrophe comme aussi une aubaine, justement dans les parcours trajectoires résidentielles des jeunes. Aujourd'hui, où la mobilité, elle est quand même assez importante pour les études ou pour la vie professionnelle. Et souvent, le marché immobilier joue pas forcément en faveur de cette mobilité des jeunes parce que c'est assez pesant, il faut 3 mois de préavis, etc. Alors que dans une colocation, on peut penser aussi que quand on veut partir... Si on trouve un colocataire qui veut bien prendre sa place, finalement, la bascule se fait plus facilement plus rapidement que dans d'autres formes de location.
Mais ce qui, du coup, crée un marché assez violent, en fait. Hein.
Oui, oui. Mais en même temps, on se rend compte aussi que les pouvoirs publics commencent à s'emparer de cette question-là parce que c'est vrai que l'accessibilité au logement des jeunes est très, très compliquée avec des problèmes de financement, de loyer, de garantie, etc. Donc, la colocation peut paraître aussi comme une solution, comme je l'ai dit, d'une mobilité plus facile et aussi D'ailleurs, dans les entretiens qu'on a réalisés, des jeunes, comme il y a une association qui s'appelle La Fève, qui fait aussi un dispositif qui s'appelle CAPS, donc les colocations solidaires, c'est-à-dire il y a une entente entre des bailleurs sociaux et puis donc l'association La Fève pour finalement sous-louer un appartement généralement dans le parc social, dans des quartiers prioritaires de la ville, et avec un loyer extrêmement modéré qui permet aux jeunes d'être en colocation. Et surtout, la contrepartie, c'est de réaliser des projets souvent de mixité sociale avec les habitants du quartier. Donc de refaire un petit peu de lien social. Et puis, il y a aussi des bailleurs sociaux qui commencent à proposer des colocations pour des étudiants, pour des jeunes actifs, donc dans leur parc immobilier.
Isabelle Monneil, on fait une pause musicale. C'est le groupe Blue Land qui nous interprète Roommate.
écoutez Canal B sur le 94 ou en ligne sur canalb.fr. Vous êtes dans Chercheurs en ville, émission consacrée à la recherche universitaire. Aujourd'hui, on reçoit Emmanuelle Monaille. Elle est enseignante-chercheuse et maîtresse de conférences en sociologie à l'IUT de Rennes dans le département carrière sociale. En première partie, il a été question du départ d'une vie familiale, direction la colocation. À présent, il va être question du retour dans certaines situations de ces jeunes dans le foyer familial. C'est la recohabitation.
Emmanuelle Monaille, des jeunes ont quitté le domicile familial pour poursuivre leurs études, pour vivre une histoire d'amour, pour travailler lors d'un stage ou d'un premier emploi. Ils étaient partis et pourtant un certain nombre d'entre eux reviennent chez leurs parents. Dans quelles circonstances? Quand est-ce qu'on revient chez les parents?
Bah, comme vous le dites, il y a plusieurs raisons qui vont faire qu'on va revenir chez ses parents, enfin que les jeunes doivent revenir. Parce que je dis doivent pour de manière consciente, parce que c'est une obligation quelque part. On voit bien ces questions de réversibilité aussi des trajectoires. Plusieurs raisons, des raisons qui sont liées à des problèmes d'inscription sur le marché du travail, hein, une confrontation brutale au marché du travail avec un licenciement, la fin d'un stage, etc., qui fait que on est obligé de retourner chez ses parents. Une histoire d'amour, une vie conjugale qui se passe mal, et pas possibilité de continuer à vivre seul, et donc on rentre chez ses parents. Et puis, des raisons peut-être, et là on voit bien la question, c'est que pour un certain nombre de jeunes, le départ était considéré un peu comme définitif. On avait de quoi payer son loyer, on avait un travail, une famille, un conjoint, donc on pensait ne jamais revenir chez ses parents. Et puis non. Donc il y a une sorte de retour d'échec finalement de cette recohabitation. Et puis d'autres raisons. Et là où on voit bien que c'est pas tout à fait la même chose des jeunes étudiants qui sont partis faire leurs études un petit peu loin de chez leurs parents et puis de toute façon qui imaginaient qu'un jour ils reviendraient parce que ça fait un peu partie de la trajectoire normale. Après des études, on revient pour peut-être rebondir et aller faire d'autres études à Rennes.
Mais à Rennes aussi.
Vous définissez
quatre types de recohabitation. Donc recohabitation, oui. C'est je reviens chez les parents. Le domicile familial vécu comme un refuge, comme un chez-soi, comme un tremplin ou comme un dernier recours.
Oui.
Alors on va les prendre dans l'ordre.
Oui.
Commençons par le retour, ce que vous appelez, vous et vos collègues, le retour au refuge.
Oui.
Et vous dites que ça concerne principalement, vous le soulignez, les enfants d'ouvriers et d'employés.
En fait, il faut penser la recohabitation toujours en perspective de la manière dont les jeunes ont décohabité. Et donc, il y a différentes manières de penser finalement la décohabitation. Alors, pour resituer peut-être un petit peu les choses et aussi la manière dont on a construit, donc avec mes collègues Virginie Muniglia, Céline Roté et puis Émilie Potin, qui sont également enseignantes-chercheuses à Rennes, on s'est rendu compte en faisant des entretiens, parce que là encore, ce sont des travaux à base d'entretiens, donc dans une approche qualitative, que la manière de se projeter finalement dans la vie adulte était un peu différente, avec une projection plutôt linéaire, où on passe de chez ses parents un peu à sa vie adulte, et puis avec des modes plus expérimentaux, avec une idée plus sinueuse finalement du passage à la vie adulte, faite de retour, de réversibilité, avoir un premier boulot, retourner aux études, enfin voilà, cette espèce de va-et-vient, d'aller-retour un peu des trajectoires. Et une fois qu'on voit ça, on se rend compte que selon l'individu, selon la manière dont il se projette un petit peu, comment il voit la trajectoire vers l'âge adulte, qui va avoir... on va comprendre finalement comment ils pensaient leur départ et comment du coup ils vont vivre leur retour. Donc se penser un peu comme dans une projection un peu linéaire, c'est un départ un peu définitif et donc
dans les milieux populaires,
voilà,
théoriquement quand on part on est parti,
c'est ça.
J'ose dire.
C'est ça, quand on perd, on est parti, et puis quand on revient, donc ça peut être considéré un peu comme un échec, où la place dans cette famille, une fois qu'on est revenu, on n'a plus forcément la même place, on ne revient pas à une place d'enfant, parce que c'est ça aussi qui est intéressant dans les travaux qu'on a pu voir, c'est à quelle place les jeunes reviennent habiter chez leurs parents. Est-ce qu'ils reviennent en tant qu'enfants, ils n'ont pas leur chambre est restée telle qu'elle, ils reviennent un peu comme si de rien n'était, et ils reprennent leur place, ou alors plutôt dans les milieux populaires, effectivement, où le départ est plutôt considéré un peu comme définitif et on passe à un autre âge, ça pose la question du retour un peu comme un échec et à quelle place on revient.
Et revenir dans une famille que théoriquement on a complètement quittée, et pas forcément dans des mauvais termes.
Hein. Oui, oui.
Ça peut être revenir dans un appart ou une maison pas très grande,
oui.
Où les parents, oui. On verra après les milieux aisés, oui. Etc., etc. Bon. Il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes de mètres carrés.
C'est
des
ça,
problèmes
oui.
De...
oui, oui.
Ce qui n'est pas le cas dans des milieux plus aisés.
Tout à fait, oui, oui. Et comme vous le dites, revenir dans un endroit où peut-être sa place n'y est plus. Par exemple, si on avait sa chambre et puis elle a pu être réinvestie pour les parents ou pour un frère ou une sœur, etc. Donc c'est aussi la question du retour et à quelle place et à quel endroit. Et donc j'ai une collègue qui s'appelle Sandra Gaviria qui a travaillé aussi sur ces questions du retour. Et donc elle montre aussi comment ce retour chez les parents dans un espace où on n'a plus sa place, c'est dormir sur le canapé et aussi avec l'idée de pouvoir contribuer aussi
financièrement
donner aussi une part de son salaire pour pouvoir aider la famille dans la vie quotidienne en fait.
Christian Lebar.
Oui, alors recohabitation d'un côté, colocation de l'autre, dans les deux cas ce qui est passionnant c'est il y a des rôles à inventer, en fait. Hein. Les règles du jeu, les routines ne suffisent plus. Hein. Quelqu'un qui revient, ce n'est pas un ado à la maison, c'est quelqu'un qui... Voilà. Donc, il faut retrouver sa place, comme dans la colocation. La différence étant quand même que dans un cas... Dans le cas de la colocation, les jeunes réussissent à sublimer ça en disant c'est une expérience de vie utopique, etc. On va inventer quelque chose de nouveau. Alors que, et c'est ma question, est-ce que dans le cas de la recohabitation, est-ce qu'il y a des jeunes qui vivent ça autrement que sur le mode de l'échec? Est-ce qu'on arrive à sublimer ça ou est-ce que c'est pas toujours vécu comme un peu régressif? Échec est peut-être trop fort, mais disons un peu régressif.
On a parlé des quatre types de recohabitation, donc le retour effectivement où c'est un peu considéré comme un échec effectivement là. Donc il y a des manières de faire peut-être pour essayer d'atténuer finalement ce sentiment d'échec, c'est de participer à la vie, de prendre sa place aussi en tant qu'adulte et de pouvoir aussi prendre contribuer à la vie quotidienne, ou alors être dans des perspectives plus de rester un peu chez soi dans l'espace qu'on nous a réservé et de délimiter peut-être aussi les relations avec sa famille pour essayer de se garder peut-être une zone personnelle. Et dans les autres types, donc ceux qui sont plutôt sur le forme de la continuité, c'est-à-dire ces étudiants qui, de toute façon, en partant, savaient qu'ils allaient pouvoir peut-être revenir, et ça fait partie du processus un peu normal, un moment de revenir pour repartir ensuite. Là, je pense que c'est peut-être là où c'est le mieux vécu, parce que d'une certaine manière, il n'y a pas eu de changement. Le chez-soi, chez ses parents, reste son chez-soi, sa chambre, restée souvent telle qu'elle. Et là, on voit bien que ce sont des milieux plus favorisés, où des mètres carrés sont... Il y en a plus dans les espaces personnels.
Et puis, il n'y a pas eu d'indépendance financière entre-temps, on n'a pas travaillé.
Non.
Donc, on est quand même dans la continuité.
C'est ça, tout à fait. Donc après, effectivement, il y a négocier des sorties, peut-être, négocier de nouveau avec ses parents, quand on est tout seul dans son appartement étudiant, effectivement, on ne dit pas à ses parents à quelle heure on rentre, on ne leur téléphone pas pour se dire qu'on est sorti, etc. Effectivement, là qu'on habite chez ses parents, il y a peut-être un certain nombre de règles revenir à des règles un peu de bonne entente.
Il y a des tensions familiales.
Forcément, il y a des tensions familiales. Mais souvent, ce sont des jeunes qui vont rentrer aussi tout le week-end, aux vacances. C'est-à-dire que souvent, c'est des étudiants. Le logement, c'est un logement... Il n'y a pas eu un vrai départ, en fait. Moi, j'avais travaillé pour ma thèse sur la question de du départ des enfants. Et justement, cette question du départ, du vrai départ, à quel moment on est vraiment parti? Puis on se rend compte que finalement, le fait d'habiter ailleurs, ce n'est pas forcément vécu comme un vrai départ, ni par les enfants d'ailleurs, ni par les parents. Et ce que vous disiez sur la question des inventions, effectivement la recohabitation permet aussi de travailler la question de la négociation de nouveaux échanges entre parents et enfants, sur la question de l'autonomie toujours, et de faire reconnaître son autonomie à ses parents, et d'inviter par les négociations familiales et puis quotidiennes, à plus penser comme enfant adulte, mais adulte à adulte. Mais chez ceux qui sont plutôt sur le mode de la continuité, on reste sur quelque chose d'assez hiérarchique par enfant.
Ce que vous soulignez aussi dans vos travaux, c'est cette notion autonomie-indépendance. Les jeunes vont dire par exemple qu'ils sont autonomes, mais en fait c'est les parents qui payent le loyer, qui payent la nourriture, qui payent le transport, qui payent tout.
Oui, mais en fait, là je m'inspire de travaux de François de Singly, qui fait la différence entre cette notion d'autonomie, qui est plutôt une notion, on va dire, pour aller vite, c'est un peu pilote de sa vie, savoir prendre des décisions pour soi, etc. Et puis la notion d'indépendance qui a une notion plus matérielle. Être indépendant, c'est avoir de quoi payer son loyer, etc. Et donc, ce qui montre, et ce qui est vraiment intéressant, cette tension peut-être de la jeunesse actuelle entre cette injonction d'autonomie. C'est une véritable injonction où les jeunes doivent devenir autonomes, choisir ce qu'ils veulent, de manière assez précoce d'ailleurs, quelles orientations ils veulent prendre, pourquoi, quelles qualités ils ont, etc. Et puis ce côté de une dépendance maintenue quand même de manière assez assez longue. On parle même quelquefois, cette sociologue Cécile Vandevelde dont je parlais tout à l'heure, qui parle de semi-dépendance en fait pour un certain nombre d'enfants, souvent des milieux favorisés, puisque ils sont autonomes. Les parents ont suffisamment aussi d'argent pour leur permettre d'avoir un logement à eux, mais ils sont quand même dépendants financièrement encore de leur famille d'origine.
Et alors ces jeunes qui reviennent chez leurs parents, est-ce qu'ils importent au fond dans la relation avec les parents ou dans leur mode de vie des façons de vivre précisément construites à l'occasion des colocations? C'est-à-dire au fond, est-ce qu'ils ne sont pas un peu colocs avec leurs propres parents une fois qu'ils reviennent?
Ça, alors, on parlait des quatre, là, toujours, et donc ça me permet de revenir sur le troisième type, ceux qui sont plutôt, on va dire, le rebond. C'est-à-dire...
Le rebond, le tremplin,
voilà. Vous appelez comme les ça. Jeunes qui sont revenus chez leurs parents, qui ont une conception, comme je disais tout à l'heure, plus expérimentale du passage à la vie adulte et un peu plus sinueuse. Et donc, ils sont partis peut-être pour un projet, pour des études, pensant peut-être qu'ils n'allaient pas revenir. Et puis, pour développer un projet particulier, ont quand même besoin peut-être de revenir chez leurs parents pour se refaire un peu financièrement, etc. Et donc, là, on voit peut-être effectivement ici se jouer des relations de négociation avec ses parents. Parce que d'un certain côté, ils revendiquent un certain nombre de dévolutions quand même de leur côté, d'avoir expérimenté un certain nombre de choses, et ne veulent pas forcément revenir à cette place d'enfant qu'on veut leur assigner. Et donc là, on va trouver effectivement des négociations peut-être plus importantes dans les relations familiales, parce que ce qui serait intéressant de voir, qu'on avait un peu abordé dans ce travail-là, c'est comment aussi le retour des enfants vient re-questionner les modes de vie des parents aussi. Ça évolue finalement sur des choses qu'on faisait, qu'on ne fera plus en tant que parents.
La dernière catégorie que vous délimitiez, c'était le dernier recours. Là, c'est le cas des enfants qui ont littéralement fui le domicile familial parce qu'il y avait des conflits, parce qu'il y avait des violences, parce qu'il y avait des divorces mal vécu, parce qu'il y avait des problèmes psychiques, parce qu'il y avait des addictions.
Oui.
Donc là, on est dans une zone douloureuse, difficile, etc. Donc ces retours sont contraints. Vous dites la difficulté à trouver sa place dans un espace qui ne fait pas figure de foyer protecteur.
tout à fait. Parce que ce que montrait notre travail, c'est aussi comment la famille peut être considérée comme une ressource quand même assez fiable pour permettre des retours qui soient vécus, mal vécus du point de vue des enfants. Mais il y a un filet de sécurité quand même assez... assez important qui existe et dans les représentations, la famille un petit peu comme cet espace de refuge en cas de coup dur, on pourrait dire. Dans le cas de ces jeunes qui ont fui leur famille finalement, c'était un petit peu pour voir la limite finalement de la famille comme un espace de protection et de refuge qui, quelquefois, du fait de problèmes financiers, de violence, n'exerce pas ce rôle-là. Et le jeune fuit sa famille, comme vous le disiez, mais cette situation de décohabitation est tellement aussi compliquée qu'ils sont obligés de revenir dans cet espace qui ne faisait pas sens ou qui ne faisait pas protection pour eux, quoi. Et donc, comme on l'explique, c'est la famille, enfin en tout cas le lieu parental est un dernier recours, faute de mieux, puisque plutôt que quelque part ne pas avoir d'endroit. Mais ce qu'on voit aussi dans les quelques trajectoires qu'on a pu voir par rapport à ça, c'est... finalement, ça se passe de toute façon, ça se passe mal. Le retour va mal se passer souvent. Et donc, ça anticipe un nouveau redépart, on pourrait dire. Là encore, certainement mal organisé, trop rapide, et qui ne fait que accentuer les fragilités de ces jeunes qui ont du mal à trouver un espace protecteur aussi dans la société, et puis une place à eux, quoi.
Quelles que soient les différentes formes de retour, vous notez qu'une règle essentielle, c'est que pour que la recohabitation soit viable, elle ne peut l'être que pour une durée limitée.
Mmh. Oui, tout à fait. Oui. Parce
qu'autrement, ça, c'est source de tension.
C'est source de tension, oui. C'est-à-dire que, et c'est ça où c'est peut-être le plus difficile dans le premier cas, le retour, c'est que quand on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir repartir, alors même du côté des parents qui se demandent quand est-ce qu'il va repartir, parce que ça pose problème, c'est une source de tension. Pour les étudiants qui sont revenus 6 mois, le temps d'un stage, et puis ils vont retrouver du travail après, ou le rebond parce qu'ils savent que c'est pour mieux repartir avec un projet, effectivement, ces retours... où on ne sait pas combien de temps ça va durer, est source effectivement de grandes tensions. Et on voit bien là aussi apparaître comment les relations intergénérationnelles et les recohabitations, pour cet exemple-là, viennent fragiliser les relations justement parents-enfants. Parce que un des objectifs, c'est que l'enfant devienne autonome, vive tout seul, il soit autonome et indépendant. La société française fait peser sur la famille aussi un certain nombre d'aides qui pèsent un petit peu sur ces relations intergénérationnelles. Et donc, on voit bien que ça crée aussi des tensions importantes.
Christian Lebar.
Une dernière question pour les jeunes. Le retour chez les parents est-il plus difficile lorsque les parents habitent loin des grands centres urbains? C'est-à-dire, est-ce que le fait de retourner à la ville qu'on a quitté pour passer le bac, etc., est-ce que le sentiment de régresser, entre guillemets, bien sûr, donc de rompre avec toutes les sociabilités juvéniles urbaines, etc., est-ce que c'est plus fort quand il y a en plus une relégation territoriale?
Oui. Ça, on ne l'a pas vu dans les entretiens, précisément, mais effectivement, on peut imaginer ne serait-ce que les questions de mobilité, en fait, aussi, d'accessibilité au centre urbain.
Quand on est un peu prisonnier chez ses parents. Quoi.
C'est ça, oui. Oui. C'est l'idée d'être un peu prisonnier chez ses parents. Oui. Ça, on a peu de choses dans les travaux qu'on a menés là-dessus, mais effectivement, on peut imaginer que ça puisse être un élément aussi aggravant, pourrait dire, dans le sentiment d'échec, quelque part.
Dernière chose, une possibilité aussi pour les jeunes dans ces périodes, c'est non pas le retour chez les parents, mais chez les grands-parents. c'est assez fréquent ou c'est quand même très minoritaire ou...
Alors, dans les entretiens qu'on a réalisés, c'était très minoritaire en fait. Mais on se rendait compte, ça revient un peu à ces questions des relations aussi avec les parents. Et j'ai le souvenir, c'était un cas d'une jeune femme qui avait des relations tendues avec sa mère et qui finalement avait trouvé refuge quelque part, plutôt chez ses grands-parents. Pour éviter peut-être...
Confrontation.
Oui, éviter à la fois peut-être des expériences de grande précarité et puis la recohabitation avec sa mère était impossible. Donc, quand on parle de recohabitation et de solidarité familiale, on voit que dans certains endroits, ça dépasse le côté, l'espace des parents. Oui. Et ça peut aussi déborder sur grands-parents qui viennent aussi être des acteurs de cette solidarité et des soutiens à la construction de l'autonomie et de le passage à la vie adulte des jeunes.
Merci infiniment Emmanuel Monneil.
Merci.
Je signale que vos actuels sujets de recherche, c'est sur le retour de l'enfant en tant qu'invité spécial, ainsi que très beau thème aussi, la chambre des enfants. Est-ce que c'est un sanctuaire que l'on fige ou un espace que la famille serait appropriée et dans quelles conditions. Merci beaucoup Emmanuel Monneil, merci Christian Lebard, merci Lucine Louapre, notre réalisatrice, et à bientôt pour la prochaine émission de Chercheurs en ville sur Canal B.